que l'adhésion franche et massive des citoyens m'engage à rester en fonction, l'avenir de la République nouvelle sera décidément assuré. Sinon, personne ne peut douter qu'elle s'écroulera et que la France devra subir, mais cette fois sans recours possible, une confusion de l'État encore plus désastreuse que celle qu'elle connut autrefois. Charles de Gaulle, discours du 4 novembre 1965.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le référendum du 28 octobre 1962 portait sur l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Le général de Gaulle en avait fait la proposition aux Français. Par 62% des voix, les Français choisissaient d'accepter la nouvelle manière d'élire le chef de l'État et donc, au terme du mandat du général de Gaulle, en décembre 1965, il serait appelé aux urnes. À vrai dire, les Français n'avaient plus du tout l'habitude de désigner le président de la République. La dernière fois, c'était en 1848, et ils avaient élu, dès le premier tour, le prince Louis-Napoléon Bonaparte. Sous la Troisième République et la Quatrième République, on s'était opposé à l'idée de désigner le chef de l'État au suffrage universel, et c'était donc le Congrès réuni à Versailles qui désignait le chef de l'État. De Gaulle avait donc, en 1962, totalement modifié le jeu politique. Le premier des candidats à s'annoncer pour l'élection de 1965 est Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Avocat, brillant orateur, très proche du régime de Vichy, il avait été élu député poujadiste en 1956 et s'est annoncé aux Français en novembre 1963 pour briguer l'Élysée. Tout au long de l'année 1964, c'est l'affaire de M. X qui passionne les milieux politiques. En effet, l'Express lance un portrait robot d'un candidat qui pourrait éventuellement se mesurer au général de Gaulle. Au final, c'est Gaston Defferre qui apparaît comme ce candidat. Le maire de Marseille, socialiste, voudrait essayer de mener une grande coalition avec les radicaux, la droite modérée, les démocrates chrétiens du MRP, mais par contre exclut une alliance avec le Parti communiste, situation d'ailleurs que connaissaient les socialistes durant la IVe République. Au mois d'avril 1965, un autre personnage se présente sur le devant de la scène. Il s'agit de Pierre Marsillacy, sénateur de Charente-Maritime, plutôt situé au centre droit, et qui a un point commun avec le général de Gaulle, mais c'est sans doute le seul. Il mesure, lui aussi, presque 2 mètres. Enfin, Jean Le Canuet, sénateur de Seine-Maritime, 45 ans, agrégé de philosophie, décide de se présenter au début de l'automne 1965. Il va représenter la tradition démocrate chrétienne. Un inconnu, Marcel Barbu, se présentera lui aussi, ayant obtenu les 100 signatures nécessaires, à l'époque il ne fallait que 100 signatures pour se présenter, et souhaitera représenter le Français de la rue, l'homme des chiens battus. Reste à savoir qui va représenter la gauche, puisque Gaston Defferre, sans alliance communiste, renonce en 1965. François Mitterrand va donc récupérer le gant pour essayer de lancer le défi au général de Gaulle. La grande idée de Mitterrand, c'est qu'il faut surtout qu'il n'y ait pas d'adversaire à gauche. Donc qu'il n'y ait pas de candidat communiste qui se présente et qui l'empêcherait évidemment d'être présent au second tour. Aussi, il va patiemment réunir les forces de la gauche non communiste, mais surtout parvenir à un accord avec le Parti communiste qui, ne l'oublions pas, représente environ 22 à 25% des voix. Le 9 septembre 1965, il annonce sa candidature le jour même d'une grande allocution du général de Gaulle lors d'une conférence de presse. Ainsi, comme il l'expliquera, il souhaitait que la conférence de De Gaulle porte également sa propre candidature. En 1965, cet homme, qui n'est pas encore à la tête du Parti socialiste et qui vient d'ailleurs plutôt du centre droit sur lequel il a été élu en 1946, a connu une évolution tout au long de la 4e République et a désormais 49 ans, dans la force de l'âge, est un homme d'expérience, mais qui évidemment se lance un défi formidable que d'essayer de faire tomber le chef de la France libre. Celui-ci attend le dernier moment pour se présenter. Le général de Gaulle n'annonce sa candidature que le 4 novembre 1965, c'est-à-dire un mois à peine avant le premier tour. La campagne passionne les Français. Le général de Gaulle ne fait pas campagne lui-même. Il n'utilise pas son temps de parole à la radio et à la télévision, expliquant que les Français le connaissent assez et qu'il ne va pas se présenter en pyjama pour dire qu'il s'appelle Charles de Gaulle, qu'il est marié et qu'il a des enfants. Donc, ce sont ses ministres qui essayent de meubler le temps. Par contre, les diverses oppositions font campagne. Elles utilisent le temps à la radio, le temps à la télévision, où les Français découvrent souvent des visages plus ou moins connus. Et indéniablement, cette campagne porte ses fruits. Les premiers sondages donnaient Charles de Gaulle élu au premier tour avec 66% des Français. Mais au fur et à mesure de la campagne, Charles de Gaulle tombe à 61% le 16 novembre, à 46% le 27 novembre, à 43% le 2 décembre. Par contre, on observe que François Mitterrand progresse entre-temps de 23% à 27%, et que Jean Le Canuet, parti à 5%, se retrouve le 2 décembre indiqué à 20% des suffrages. Tixier Vignancourt atteint, lui, les 7%. Marsillacy et Barbu regroupent à peu près 3% à eux seuls. Donc, il y a une incertitude sur l'élection ou pas du général de Gaulle au premier tour. Les Français vont donc voter le 5 décembre. 85% du corps électoral se mobilise et va voter. Les résultats sont les suivants. 43,7% des votes pour le général de Gaulle, 32,2% pour François Mitterrand, Jean Le Canuet obtient 15,9%, Tixier Vignancourt 5,3%. Ainsi, le général de Gaulle est mis en ballotage, ce qui est vécu comme une espèce de semi-échec. Il est résolu à se présenter pour un second tour, après un temps, il faut bien le dire, quelque peu de déprime, et là, il se présente à la télévision. Par deux entretiens avec Michel Droit, il se découvre un peu aux yeux de l'opinion française et finalement, il apparaît plus accessible, goguenard, maniant l'humour et finalement réussissant à remobiliser son camp et à obtenir une élection au second tour.
Il n'était plus que deux en lice. Les choses sont allées très vite et dès 23h, M. Mitterrand reconnaissait sa défaite.
Je me réjouis de l'union de la gauche qui m'a permis de lutter pour la République en ce deuxième tour de scrutin. Je remercie les Républicains du concours qu'ils m'ont apporté.
Les résultats affluaient et un peu plus tard, les chiffres définitifs pour l'ensemble de la métropole étaient officiellement proclamés.
Charles de Gaulle, 12 millions. 868 661, soit 55%.
55% des suffrages contre 45. Le général de Gaulle pouvait donc entamer un second mandat. Traditionnellement, on montre cette élection comme un échec plus ou moins important du général de Gaulle. Il n'aurait été élu qu'au second tour. Je vous propose une analyse un peu différente. D'abord, personne n'a compris véritablement le fonctionnement de l'élection présidentielle. On a confondu élection présidentielle et référendum. Donc tout le monde estimait que, comme un référendum, eh bien, le général de Gaulle obtiendrait un score très important dès le premier tour. Or, une élection se décide sur plusieurs candidats. Là, il y en avait 8, Ce qui fait que finalement, il fallait éparpiller les suffrages. Il fallait montrer qu'il y avait une diversité politique. Indéniablement, François Mitterrand a fait une bonne campagne, réussissant à regrouper une très grande partie de la gauche. Mais c'est surtout Jean Le Canuet qui a fait trébucher un peu le général de Gaulle, avec un peu plus de 15%. D'ailleurs, une large partie des votes de Jean Le Canuet a rejoint le général de Gaulle au second tour. Qui plus est, avoir 43 à 44% des voix au premier tour est en soi aujourd'hui un succès considérable. Deuxième élément, c'est que l'élection de 1965 enracine la Ve République. La réélection du général de Gaulle stabilise quasi définitivement le pouvoir et indéniablement l'élection de Georges Pompidou en 1969 confortera la Ve République. Aussi, les Français ont pris un goût important à cette élection et désormais ils sont attachés à la désignation du chef de l'État au suffrage universel.